Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles pour parler aujourd'hui d'un sujet là aussi sensible, mais là aussi c'est notre rôle de parler de ces sujets. Vous le savez, les familles, elles évoluent. On ne dit plus la famille, on dit les familles, car il y a évidemment différentes formes de familles et c'est une richesse. Et aujourd'hui, on va parler des parents trans, des parents transsexuels. Vous allez d'abord entendre le témoignage de Claire, qui est une maman donc de Luna, qui a 13 ans, Claire. Et puis ensuite, on va commenter avec le psychiatre, qui est toujours formidable, je vois pas comment le dire autrement, le docteur Serge Hefez. On écoute Claire avec Agathe et on commente avec le docteur Hefez.
Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Alors je sais que c'est toujours, vu qu'on est en plus en direct et tout, un petit peu impressionnant, surtout quand on vient parler de son histoire. Je vous présente, vous êtes donc illustratrice, on peut voir votre travail sur le blog Maman Trans. Vous êtes la maman de Luna qui a 13 ans et après vous être séparée de la mère de votre fille, vous avez entamé un parcours de transition de genre et vous en avez parlé tout naturellement à votre fille qui s'appelle Luna, qui avait 4 ans à l'époque. Alors nous, ça nous paraît fou parce qu'on se dit comment est-ce qu'a pu réagir cette petite fille, mais c'était quelque chose qui était en vous depuis très très longtemps et à un moment... il a fallu que ça sorte. Donc, vous êtes devenu parent avant votre transition. Je dirais, on sait que c'est une tempête, l'arrivée d'un enfant. Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans votre vie, sachant que vous aviez aussi, je dirais, ce secret en vous ?
En fait, ça a été un chamboulement de devenir parent. Quand j'étais plus jeune, je me voyais avec des enfants, plutôt dans la reformulation d'un schéma hétéronormatif dont je ne comprenais pas forcément les enjeux. Mais le jour de la naissance de ma fille, c'est vraiment le meilleur jour de ma vie. Je me souviens qu'elle avait du mal à ouvrir les yeux et à cause de la lumière. Et donc, je lui ai protégé pour qu'elle puisse ouvrir les yeux.
Oui, donc une tempête, pardon. Comme tout le monde. Mais avec quand même, en filigrane de votre vie, ces questions sur le genre qui étaient en vous déjà.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Alors... Votre fille a eu 2 ans. Ça va bien se passer. Alors, je sais qu'il y a un petit peu de stress, mais vous allez voir, ça va bien se passer. C'est normal, c'est normal. Donc, votre fille a eu 2 ans. À ce moment-là, vous êtes séparée de votre compagne. C'est autre tempête dans votre vie. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé une vraie réflexion, justement, sur une transition potentielle.
Oui, tout à fait. En fait, je me suis remise en question sur qui j'étais et où j'allais. Mon expression de genre, c'est quelque chose qui prenait de plus en plus de place et qui était au placard depuis toute petite. Donc je me suis dit, il faut que je le vive au jour le jour, au quotidien. Entre la séparation et le début des coming out, il s'est passé 2 ans. J'en ai parlé à ma fille quand elle avait 4 ans et demi. Ça a été une période de réflexion et de dialogue avec d'autres personnes trans. Finalement, de réflexion qui a amené une conclusion qui était, je ne peux pas vivre épanouie au fond d'un placard.
Quand vous dites coming out, vous avez commencé par qui, en fait ? À qui vous avez commencé à le dire ?
Alors, j'ai commencé par les personnes de confiance, les amis, ma fille, et puis plus tard, à la famille et au milieu professionnel.
OK. Alors, donc, Luna, elle avait 4 ans et demi. Vous dites que vous lui en avez parlé. Comment est-ce que vous avez fait ?
En fait, je m'étais aperçu que l'histoire du soir, le moment de raconter l'histoire du soir... c'était un moment propice, elle interagissait beaucoup avec le récit, elle posait des questions sur les personnages. Donc je me suis dit, c'est un moyen parfait pour qu'elle puisse se projeter. Un après-midi, on a fait comme d'habitude. Dans le salon, on a sorti le papier, les feutres, les crayons et un chocolat chaud. J'ai dessiné l'histoire d'un prince qui est malheureux parce qu'il se sent femme et qu'il ne sait pas comment faire vis-à-vis du monde. Finalement, le parallèle d'une personne en questionnement sur son genre MTF face à une société normative.
MTF, vous pouvez juste nous dire ce que
c'est. Oui, male to female.
D'accord.
Ce personnage va rencontrer plusieurs protagonistes, dont une enchanteresse qui va la soutenir et lui dire aussi que ce n'est pas une malédiction. et lui permettre de s'épanouir. L'idée, c'était surtout en simplifiant, en vulgarisant, d'expliquer à ma fille comment je me sentais. Et puis aussi qu'en discutant avec les bonnes personnes, en fait, on pouvait trouver des solutions et comprendre ce qui se passait, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, vous avez commencé votre transition physique.
Oui.
Quelles questions vous posez votre fille ? Parce que je crois que c'est ça qui peut le plus perturber nos téléspectateurs, c'est de se dire, tiens, à un moment, elle a un papa et puis qui commence à devenir une femme. Est-ce que pour elle, ça n'a pas été un petit peu déstabilisant ?
Alors, on ne s'est pas posé pour faire un cours sur l'expression de genre ou l'identité de genre. Mais c'est venu spontanément au fur et à mesure de son évolution. À 3-4 ans, avec un livre qui s'appelle « Le parcours de Polo », je lui expliquais comment on faisait les bébés dans les couples hétéros. Du coup, après coming out, elle m'a posé une question en mode « elle avait associé le féminin cisgenre à la maternité, et donc elle m'a dit « Mais toi, tu peux pas faire de bébé, ou tu peux pas porter de bébé. » Ensuite, à 8 ans, elle s'est plus intéressée à l'aspect hormonal et biologique. Donc voilà, je lui ai expliqué, en fait, les hormones régissent la répartition des graisses dans le corps et le moral. Moi, en glissant des hormones féminines dans mon corps, eh bien, je vais adopter le genre adéquat. Voilà, c'était toujours très frais, très
mignon. Vous l'avez toujours dit aussi, j'imagine que ça vous rendait heureuse. C'est-à-dire que vous en aviez besoin. C'est peut-être ça aussi, quand on a un parent heureux, on est forcément un enfant heureux.
Oui, puis en fait, on ne s'est même pas posé la question. C'était spontané, c'était naturel, ça venait dans le courant de notre vie, quoi.
Et votre ex-compagne vous accompagnait aussi pour ça ? Elle a été présente ou c'était dur pour elle ?
Non, pas du tout. Non, ça, c'était vraiment...
Ça a été compliqué.
Oui, c'est...
On peut le comprendre.
Alors, je vous rejoins. Sur ce sujet, on peut totalement comprendre une personne qui ne comprend pas. Sauf qu'il y a un moment où la compréhension, on attend qu'elle vienne et non pas que les gens restent spontanément dans le déni ad vitam. C'est comme la patience. Hein. On a un moment où on a envie de dire « Maintenant, ça suffit. Je te l'ai dit 12 fois. Voilà. » Donc, effectivement, la difficulté...
Elle était un peu seule pour expliquer tout ça à Luna. Mais alors, après...
Alors, j'étais pas seule, parce que j'avais ma compagne. Quand elles se sont rencontrées, Luna avait 6 ans. Elles ont matché tout de suite. C'était une compétition de roller derby. Voilà, elles sont... Enfin, je me rappelle encore de la phrase de Luna. Quand on a débriefé le soir en rentrant, elle m'a dit « Elle est chouette, Marie, on la revoit bientôt. » Donc voilà, on est aujourd'hui extrêmement complices. On est extrêmement complices toutes les trois.
Vous avez créé une famille.
On est une famille recomposée. Luna, quand elle parle de nous, elle dit « J'ai trois mamans, donc j'ai une maman trans et une belle maman.
» Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile, vous diriez, dans votre parcours de parent ?
Je crois que c'est le finalement, comme tous les parents séparés, le fait de ne pas avoir le quotidien avec ma fille. Ça crée un manque. On essaye d'y pallier, mais on n'y arrive pas forcément. On est heureuse de se retrouver, et puis tout d'un coup, on a trop de choses à se dire. Également, ça va aussi compliquer le fait de transmettre certaines valeurs queer inclusives. C'est plus difficile, finalement, quand on a moins de temps ensemble.
Vous avez rencontré des difficultés avec l'entourage, l'école, etc. Est-ce que ça a été compliqué, ça ?
Alors, en élémentaire, j'ai pris les devants en prenant rendez-vous avec la directrice de l'établissement pour avoir un dialogue constructif, pour que ma fille et moi, on soit respectés. Et depuis la loi Taubira, y a une anonymisation parents 1, parents 2, des terminologies utilisées pour désigner les parents. Je lui ai dit que l'identité de genre faisait partie des discriminations écrites dans la Constitution. J'ai marqué un long silence, histoire de mettre un petit peu la pression. Ça a été efficace. Elle m'a dit, je ferai le nécessaire. Ça l'a été, elle l'a fait. Et puis surtout, en parlant directement à la responsable d'établissement, je me suis attendue à ce qu'elle elle discute avec ses collègues. Et donc, c'était vraiment beaucoup plus simple, quoi.
Oui, c'est ça. Et au collège, ça s'est bien passé ?
Alors, le collège, c'est plus aléatoire. Au-delà de ça, dans l'espace public, le regard sur nous trois ensemble, il est rarement bienveillant. Concrètement, ça veut dire que ça peut poser des problèmes pour socialiser avec d'autres parents d'enfants d'élèves. Mmh. Alors forcément, on est une famille homoparentale, une maman est trans.
Oui.
Voilà.
Vous avez eu quand même des choses positives, non ?
Ah oui, oui, heureusement. Heureusement. D'ailleurs, c'est celle-là qu'on essaye de garder et de dessiner. Par exemple, Luna était en colo dans le sud de la France. Elle se fait une nouvelle copine pendant une sortie en ville. Et la copine lui dit, elle se confie, elle lui dit « Mes parents sont super ennuyeux ». Et puis Luna répond bah, « ben moi, j'ai trois mamans, dont une maman trans. » Et la copine dit « On échange !» Voilà, hyper spontanément. Ça a fait beaucoup rire, Luna, de nous raconter ça. Et on était très contentes, quoi.
Avec tout ça, j'imagine qu'elle est plus ouverte, non ? Plus que ses petites camarades. Comment est-ce que vous la voyez ? Quel regard vous posez sur elle ?
Ben, dans notre éducation, on n'est pas du tout normative. On va parler des luttes féministes, on va évoquer le sexisme, le racisme, la grossophobie, l'homophobie. Ce qui est assez rassurant, par exemple, c'est qu'en classe de 5e, l'année dernière, donc, en histoire, il y avait un dialogue entre la prof et les élèves sur les discriminations. Et elle, spontanément, elle a parlé de la transphobie. Pour moi, c'est hyper rassurant parce qu'en fait, elle comprend les enjeux et elle s'en empare.
C'est une future femme engagée, très certainement.
Oui, ou ouverte d'esprit également, oui, oui.
Ça, c'est une belle réussite.
Oui, c'est une belle réussite. En français aussi, on lui a beaucoup... on a beaucoup travaillé l'empowerment féministe, mais on lui a dit, voilà, c'est pas parce que tu es une fille que tu seras une maîtresse d'école, tu peux être cosmonaute, tout ce que tu veux. Et donc, elle avait un devoir en français à faire. La classe travaillait sur les chevaliers de la table ronde. Elle devait raconter l'histoire d'un chevalier et d'une princesse. Elle a dit non. Moi, je préfère raconter l'histoire d'une chevalière et d'une princesse.
C'est bien. Bah, vous voyez, quand je vous disais qu'elle était déjà engagée. Oui. Merci beaucoup, Claire. Merci d'être venue témoigner sur ce plateau. Ça demande beaucoup de courage. On a évidemment plein de questions à poser à notre expert dans un instant. Je rappelle le nom de votre blog qui s'appelle Maman Trans, qui est plein de ressources sur la transparentalité. Si c'est un sujet qui vous touche, n'hésitez pas à aller regarder. Merci beaucoup,
merci
Claire.
Merci beaucoup, Yvette.
Alors, on va accueillir notre expert que j'évoquais il y a un instant, c'est le docteur Serge Effez. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Merci mille fois d'être là. Vous êtes psychiatre et psychanalyste, vous dirigez une unité de soins à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes aussi l'auteur d'énormément de bouquins, mais celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est Transition, réinventer le genre aux éditions Kalman-Lévy. Quand on fait une transition de genre après avoir eu des enfants, comment on fait pour annoncer à nos enfants ? J'imagine que ça dépend de l'âge, mais...
Bien sûr, mais je crois que le témoignage de Claire, il est très, très éclairant par rapport à ça. Et d'abord, je voudrais saluer son courage, parce que
oui,
c'est pas évident.
Faut,
pas évident. Faut, ouais. On est dans une situation aujourd'hui où il y a beaucoup de tensions autour de cette question. La transidentité, il y a des tribunes, etc. C'est un peu délicat en ce moment de parler de ce sujet, donc bravo. Et je trouve que son témoignage est très fort parce qu'elle montre bien comment, petit à petit, on acclimate un enfant à cette idée. Je trouve que les contes d'enfants, les dessins, eh ben, c'est formidable. Parce que dans les contes d'enfants, dans les contes d'enfants, vous avez des princes charmants qui se transforment en crapauds ou l'inverse, des citrouilles qui se transforment en carrosses. Donc on voit que cette espèce de métamorphose continuelle des gens, des animaux, des questions de genre aussi, c'est souvent présent dans les contes, des petites filles qui se réveillent, petits garçons, etc. Et petit à petit, à partir du conte, eh bien, on peut montrer ce qu'est la réalité, on peut la décalquer la réalité sur le conte.
Alors Claire, elle l'a annoncé de cette manière un peu poétique et imagée. Quand les enfants sont adolescents, j'imagine qu'on s'y prend d'une autre manière.
Oui, parce que quand les enfants sont adolescents, ils ont déjà des tas d'idées préconçues, ils ont des tas de copains à l'école qui leur ont communiqué certaines idées. Mais ce qui est quand même marquant aujourd'hui, c'est que les enfants sont de plus en plus ouverts à ces questions de genre. Ils ont des, il y a des vedettes de la chanson, du rock, du cinéma, des séries, etc., dans laquelle la transidentité apparaît de plus en plus, et ça les interpelle et ça les intéresse. Et toutes les questions de genre, de sexualité sont beaucoup plus ouvertes que ce qu'on imagine, et donc les adolescents vont être prêts à recevoir ces informations.
La génération d'ados n'est pas réac. On n'a pas une génération d'ados réac en ce moment sur ces sujets.
Non, alors évidemment, ce n'est pas homogène.
Bien sûr.
Parfois, vous avez un quartier ou dans un lycée, un autre lycée.
Mais globalement, il y a une ouverture.
Les questions sont très différentes. Mais petit à petit, il y a une ouverture incontestable. Oui.
On a reçu une question envoyée en vidéo pour vous, signée Kirsten.
Bonjour. Je vis seule avec mon fils de 9 ans. Il a bien accepté ma transition depuis qu'il est petit et jusqu'à présent. Je me demandais si, en grandissant, il pouvait la rejeter. Je crains que l'adolescence, ses futurs camarades de collège, puissent lui faire reconsidérer les choses.
Elle est comme nous, de temps en temps, elle a un prompteur, hein, Kirsten.
Ouais. C'est pas de elle lisait son texte. Alors, même si la génération d'ados est plus ouverte que peut-être nous quand on était ados, le regard des autres, ça reste quand même un vrai sujet.
Oui, et l'adolescence, on peut basculer d'un côté, de l'autre, selon la bande de copains dans laquelle on est, selon le mainstream qu'il y a autour de soi avec ses copains. Donc, je pense qu'elle a raison de se méfier et de surveiller ça, parce qu'il est très possible que... Comment dire, que la crise d'adolescence, c'est-à-dire le moment où on rejette ses parents, devienne le prétexte aussi de tout cristalliser autour de la transidentité et de rejeter encore plus son père ou sa mère dans ces situations-là. Donc ça demande beaucoup de délicatesse, beaucoup de dialogue, beaucoup de paroles avec l'enfant. Et j'ai envie quand même de rassurer ces parents-là, c'est-à-dire que passer cette crise de l'adolescence, en général, quand ils deviennent adultes, ça se passe très bien.
C'est valable pour tous les sujets dans la crise d'ado. Absolument. Crise d'ado, ça ne dure pas longtemps, ça dure 6 ans, quoi. 6-7
oui,
ans.
Ou parfois 20 ou 30, mais en général
ça passe après 40 ans, 7, c'est ça.
Ouais.
Génial. Il y a une question de Stéphane qui vous demande concrètement comment expliquer les changements physiques d'une transition à son enfant.
Alors, je crois que c'est important d'expliquer à un enfant qu'au départ de la vie, quand on est un petit embryon, on est tous pareils, les garçons comme les filles, et que petit à petit, il y en a qui prennent la voie de la différenciation des garçons et de la différenciation des filles. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a des hormones qui circulent dans le corps et qui font que les seins poussent, que les poils poussent, etc. Et que c'est ça qui marque la différence. Donc, on peut revenir en arrière par rapport à toutes ces transformations et avec des hormones, on peut modifier le corps, pas totalement, mais jusqu'au point où on se sent plus à l'aise dans son corps.
C'est clair.
On reçoit beaucoup de témoignages sur le sujet, je dois dire. Il y a Céline qui dit « Je suis la maman trans d'un enfant de 8 ans, séparée de la maman biologique, avec la garde alternée. C'est très difficile quand notre fils revient à la maison. Comment faire ?»
Ça dépasse très largement ce type de situation que je côtoie tous les jours. Ça dépasse largement la question de la transidentité. C'est-à-dire que quand un couple se sépare et est en crise, chacun va prendre tous les prétextes, disons, pour placer l'enfant dans un conflit de loyauté et lui demander de choisir entre chaque parent. Et là, effectivement, la partie est belle. C'est-à-dire qu'une personne en transidentité est en position de fragilité, et l'autre parent peut l'utiliser. Donc ça, là aussi, ça demande beaucoup de dialogue avec cet enfant, ne pas hésiter aussi à faire appel à des médiateurs, à des thérapeutes familiaux, à se faire accompagner dans ces situations-là.
Quelles sont les difficultés des parents trans au quotidien ? Particulière.
C'est des difficultés d'intégration, d'acceptation. Ça veut dire que l'enfant sait que son parent ou ses parents sont regardés un petit peu différemment à l'école, quand ils l'accompagnent, ils sont regardés un petit peu de travers, que dans la société, ils subissent un certain nombre de brimades, de rejets, etc. Et donc, ça met parfois l'enfant dans une position, non pas d'accuser ses parents, mais plutôt de les défendre. C'est-à-dire, finalement, il sort de sa place d'enfant pour devenir protecteur vis-à-vis de ses parents.
C'est un point commun avec plein d'autres situations. Je pense aux parents de couples homosexuels, de parents de couples divorcés, ce qui est moins le cas aujourd'hui qu'était le cas avant,
en
situation de handicap.
Enfin,
la moindre spécificité par rapport à la norme.
Tout à fait. On sait bien à quel point la norme est quelque chose qui, à la fois, est intégratif pour tous, parce qu'on se reconnaît dans des valeurs, mais en même temps est blessant pour tous ceux qui vont essayer de, non pas de la transgresser, mais d'être un petit peu à côté, un petit peu différent. La différence, elle est toujours stigmatisante.
Oriane vous demande, mon fils de 15 ans vient de me faire son coming out trans. Comment puis-je l'accompagner au mieux dans sa transition? Ça, c'est très important.
Oui, oui, 15 ans, hein, c'est ça, oui. Vous avez dit. Alors, effectivement, il faut l'accompagner, ouais. Il faut l'écouter, il ne faut pas le laisser seul avec ça, parce que c'est absolument terrible à ce moment-là de pouvoir... pas seulement s'accepter, mais savoir exactement à quoi ça correspond. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui ont 14-15 ans et qui sont interpellés par la question trans, parce que c'est de plus en plus visible, que c'est dans les réseaux sociaux, que c'est quelque chose qui est très présent. Et donc, il faut pouvoir différencier chez ces jeunes-là, qu'est-ce qui est juste comme ça, un petit engouement, ou parce qu'ils ont eu un copain, une copine à l'école, ou parce qu'ils ont une star qu'ils aiment et qui est dans un parcours transidentitaire, et ce qui correspond réellement à leur intériorité. Donc, c'est long et je pense que c'est important de rencontrer des spécialistes à ce moment-là. Il y en a de plus en plus.
Il y a des associations aussi, je crois.
Des associations, il y a des équipes pluridisciplinaires dans à peu près tous les services hospitaliers à l'heure actuelle de pédopsychiatrie où il y a des pédiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, des endocrinos, des chirurgiens, etc. Mmh. Des équipes pluridisciplinaires pour accompagner ce parcours et surtout dire à un jeune de 15 ans qu'il a le temps, qu'on n'est pas obligé de prendre des décisions tout de suite, mais qu'on n'est pas là pour le juger ni pour l'empêcher de faire le parcours qu'il aura envie de faire.
Alors, c'est la difficulté pour vous, pour les médecins, pour les parents, c'est de dire à la fois je respecte ta réflexion et d'un autre côté on fonce pas parce qu'on ne sait pas de quoi il fait. Il peut y avoir un petit côté mode, c'est un peu ça que vous nous dites?
Oui, enfin un petit côté entraînement, on va dire, pour ne pas dire mode, c'est ça, parce que les ados, ils s'identifient à tous ceux qui sont autour et il y a des lycées actuellement à Paris, moi je m'occupe de jeunes ados justement dans ces parcours-là qui ont 15-16 ans et qui me disent que dans leur classe, il y a 3-4 autres personnes qui sont dans les mêmes parcours. Donc c'est beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que les jeunes voient de plus en plus.
Mais aujourd'hui, c'est possible, quoi. Ils s'offrent la possibilité de se questionner alors qu'avant, c'était pas le cas.
Tout à fait. Et puis, il y a plus la possibilité aujourd'hui, vous savez, entre être garçon ou être fille, de toute cette fluidité de genre, de tout ce gender fluid qui me paraît très intéressant, c'est-à-dire que voilà, on peut s'habiller comme on a envie de s'habiller, s'exprimer comme on a envie de s'exprimer, être en relation sentimentale avec qui on a envie, garçon, fille, tout ça est beaucoup plus fluide, justement. Et donc, ça permet aux adolescents, petit à petit, de mieux déterminer là où ils ont envie d'être. C'est-à-dire que ce passage très tranché de ce qu'on appelait la transsexualité autrefois, c'est-à-dire je suis un garçon, je deviens une fille comme Marilyn Monroe, ou l'inverse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. Ouais.
Et est-ce que la France accompagne bien ces enfants-là, ces ados-là, ces personnes-là? Moi, j'ai souvenir d'être allé aux États-Unis et je me souviens dans un restaurant, il y avait toilette homme, toilette femme, toilette, je ne sais plus comment ils appelaient ça, gender free.
Oui.
En France, on est loin encore de ça?
On en est loin, certainement, mais il y a une réflexion qui est en train de se mettre en place. Il y a de plus en plus, encore une fois, de professionnels qui se déterminent pour encadrer ces questions-là. Ça n'est pas sans provoquer un certain nombre de réactions.
Tout à l'heure, c'est tendu sur le sujet.
C'est très tendu sur le sujet et c'est très tendu par, je pense, des gens qui sont animés de bonnes intentions mais qui ne connaissent pas réellement le terrain. Quand je lis les tribunes qui fleurissent à l'heure actuelle, on a l'impression que quand un enfant de 8 ans dit « j'aimerais être une fille », tout le monde se précipite sur lui pour l'opérer, lui donner des hormones et le rentrer dans un parcours de transidentité. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent.
Effectivement, il y a encore un peu de marge.
Alors, on a une question de Sylvain qui demande que disent les études menées en France sur la transparentalité. Déjà, est-ce qu'il y en a ?
Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Il y en a une, notamment, qu'on a fait dans le service où je travaille à la Salpêtrière, sur les pères trans, qui est une grande étude, parce qu'il y a beaucoup de pères trans, c'est-à-dire, en fait, des pères comme Claire qui ont fait ce parcours de transidentité et qui montre, et c'est une étude du long terme quand même, hein, sur une dizaine d'années, et qui montre effectivement que les enfants vont plutôt bien dans cette situation-là, que ça a plutôt développé chez eux une curiosité une meilleure acceptation des différences, et que, voilà, il n'y a pas, en tout cas... quelque chose de très grave qui serait apparu chez ces enfants.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu le cas pour toutes les familles qui ont des spécificités? Parce que les familles homoparentales, il y a eu des études aussi disant les enfants étaient presque plus heureux que dans les familles traditionnelles.
C'est vrai, parce que c'est des parents qui sont extrêmement attentifs, qui ont très peur des réactions autour de l'enfant, des réactions de rejet, donc qui lui parlent beaucoup et qui sont très proches de ce que l'enfant ressent.
Et d'ailleurs, on parlait des tensions, justement, les tensions vis-à-vis des enfants de couples homoparentaux. Vous suivez ces sujets depuis très longtemps. Moi, je me souviens, j'avais assisté à un débat où vous étiez à l'époque du mariage pour tous, oui. Où vous vous étiez fait hurler dessus par un de vos confrères. Je me souviens très bien de son nom. Ah, oui. Vous vous souvenez sans doute aussi.
Oui,
ça s'est apaisé quand même là-dessus.
Mais beaucoup.
J'ai l'impression qu'on dit moins.
Avec le confrère ou
avec lui, je suis pas sûr.
Avec le confrère, ça se joue ensemble. Sur le terrain de la transidentité, maintenant, bien évidemment.
Mais... sur les familles homoparentales, en 10 ans, ça s'est apaisé.
Oui, ça s'est beaucoup apaisé. Pourquoi ? Parce que ces familles-là, elles ont commencé à intégrer la société, que chacun dans son collège ou dans son école ou dans sa maternelle voit un couple de parents, homme ou femme avec un enfant, et se rend compte que c'est des situations extrêmement banales, que c'est des gens tout à fait ordinaires, et que les enfants ont une vie aussi tout à fait ordinaire, et que ce n'est pas la fin du monde, et que ça ne met pas en péril la société, et que... De plus en plus, dans sa famille, on a un cousin, un ami, etc., qui rentre dans ces parcours-là, et donc ça rentre dans la norme.
Donc, dans 10 ans, on peut imaginer qu'on fera plus ce genre d'émission.
Je pense que les choses auront évolué. C'est une question plus délicate, mais je pense que les choses auront évolué, oui.
Paola vous demande, vis-à-vis des parents d'élèves, vis-à-vis des profs, vis-à-vis des instits, est-ce que vous conseillez d'aller en parler en amont d'une éventuelle situation avec un directeur, prendre rendez-vous avec l'école quoi, pour...
Toujours. Oui. Il faut vraiment... on ne peut pas lâcher un enfant dans cette situation comme un peu dans la fosse aux lions, parce que ça peut être très délicat et qu'il y a vraiment un travail pédagogique, comme en témoignait Claire tout à l'heure, c'est-à-dire... aller rencontrer le responsable d'établissement, les responsables pédagogiques, les CPE, etc., pour faire en sorte qu'il y ait un vrai travail en amont, qui est très intéressant vis-à-vis des autres enfants, qui est aussi un travail d'ouverture, un travail où on les documente, on les renseigne sur ces questions-là, et ça interpelle plus généralement, au-delà de la transidentité, sur les questions de genre. Qu'est-ce que c'est qu'être un garçon ? Qu'est-ce que c'est qu'être une fille ? Qu'est-ce que c'est que les stéréotypes ? Qu'est-ce que c'est que la supériorité des garçons sur les filles ? Et les enfants, ils adorent ça.
Ouais.
Alors justement, on va parler des enfants. Julie vous demande, du côté des enfants, qu'est-ce qui se joue dans leur tête, selon leurs âges, concernant la transidentité, pendant la transition de leurs parents, en fait ?
Bon, c'est compliqué pour les enfants, bien évidemment. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose de très simple, parce que les enfants, voilà, on leur a appris, et puis la réalité est comme ça, des choses extrêmement balisées. On est soit un garçon, soit une fille. Depuis la nuit des temps, Adam et Ève, voilà, la nature s'est structurée comme ça, et c'est vrai aussi chez les papillons, chez les plantes, chez tous les animaux. Donc, il y a quelque chose de cet ordonnancement du monde qui est très, très inscrit. Donc, il faut vraiment... comment dire, leur expliquer petit à petit, progressivement, que cet ordonnancement, il existe, qu'on ne remet pas en cause une réalité qui est une réalité chromosomique, biologique, du féminin et du masculin, j'ai envie de dire du mâle et de la femelle dans la nature, mais que tout le travail de civilisation des hommes, ça a toujours été de rebricoler ces choses-là, les refabriquer, les réinterpréter, les remettre en chantier, et que l'homme et la femme sont hommes et femmes aujourd'hui, justement par ce travail de civilisation qui fait qu'on peut transformer les choses et qu'on peut l'adapter un petit peu plus à ce que sont les uns et les autres à l'intérieur.
Et est-ce que eux vont se poser du coup la question les concernant automatiquement si leurs parents transitionnent ?
Ben, de toute façon, tous les garçons et les filles aujourd'hui se posent cette question de qu'est-ce que c'est qu'être garçon et qu'est-ce que c'est qu'être fille aujourd'hui, comment on se positionne les uns par rapport aux autres, comment on sort des stéréotypes, les filles elles sont bêtes, les garçons ils sont méchants dans la cour de récréation. Vous hochez la tête, vous n'êtes pas sûr.
Ça reste un peu vrai sur les garçons sont méchants, allez vous dire Marie.
Pas du tout.
Non, à l'adolescence, oui.
Mais c'est-à-dire qu'on explique de plus en plus aux filles, comme le disait Claire aussi, qu'elles seront peut-être infirmières, mais aussi peut-être astronautes, président de la République, pompiers, etc. Et aux garçons, qu'ils pourraient s'occuper de bébés plus tard et que c'est très épanouissant pour les garçons de s'occuper d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les destins des garçons et des filles qui est de plus en plus ouvert. Et donc, ils sont interpellés.
Mais c'est une période formidable qu'on vit en ce moment, parce qu'il est en train de se jouer énormément de changements, là, dans la période actuelle, depuis quelques années.
Oui. Et c'est précieux, parce que regardez, en Afghanistan, tout à coup, des femmes qui pouvaient aller à l'école, suivre des études, se promener dans la rue, et ben, du jour au lendemain, elles ne peuvent plus. Elles ne peuvent plus aller à l'école, elles ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent. Donc, on voit que ces changements-là, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, et ben, ils sont fragiles.
Voilà, merci beaucoup au docteur Serge Ephèse et merci à Claire d'être venue se raconter devant Agathe Le Caron. On imagine que c'est pas simple de venir à la télé se raconter comme ça, donc merci beaucoup à elle. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, très bonne fin de nuit, si vous nous écoutez de nuit, je sais pas, pourquoi pas après tout. On se retrouve demain, vendredi, pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite d'aller le mieux possible. À ciao tout le monde.